censé
ouais, c'est ça. Avoir. Il y a le truc où il lui met de la crème machin là.
Ouais. Ça, c'est... Alors est-ce que dans celui-là c'est plutôt pour le torturer, je crois.
Bah justement, je sais plus.
Je crois pas,
en fait, il lui râpe les pieds pour que ça rentre plus vite.
Il y a trois zones de sensibilisation. Ouais. Les pieds, les yeux et puis...
La troisième, c'est une cognette.
Ouais, l'anus, je sais pas, mais...
Oh non, parce qu'il y a vraiment... En fait, il lui dit... Non,
il a acheté un truc énorme après.
Oui, non, mais en fait, c'est vraiment la partie génitale, parce que quand il l'explique, il y a un petit schéma un peu en insert où tu vois juste des pieds entourés sur un dessin. Et vu que le troisième, il n'arrive pas trop à le dire, il fait le troisième, c'est. Et là, t'as un gros zoom sur le dessin où t'as vraiment.
Puis c'est quand même. En fait, cette ambiance crade avec Sunny qui a l'air dépressif, qui est en mode. Je sais pas, il y a un effet sale. Et puis même le fait qu'il ait besoin de pisser, elle amène le pot. Enfin.
Ah oui,
c'est vraiment. Ça, t'es vraiment dans ce qui pourrait vraiment se passer si tu avais quelqu'un.
Comment tu sais, Mélissa ?
Non, mais je sais pas.
C'est parti faire quoi tout à l'heure ?
Il montre vraiment le côté crade du truc.
Pourquoi t'as gardé une part de gâteau là qu'on se partage ? T'es parti avec tout à l'heure à la cave et t'es revenu sans ?
Ça sent un peu la menthe.
Moi, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Parce que justement, j'avais l'impression que c'était un film sur justement toutes les conspirations qu'on peut raconter et tout. Et juste la fin est quand même surprenante.
Oui.
Je l'ai vu d'abord Bugonia, mais j'ai eu la même réflexion. Pendant tout le film, je me suis dit, mais en fait, est-ce que ça va vraiment être un extraterrestre ou pas ? Mais si c'est le cas, c'est un peu nul, mais d'un côté, c'est un peu drôle. En fait, c'est toujours un peu entre les deux, quoi.
Donc tu te demandes un petit peu quel est le discours, au final.
Quel est le discours ? Mais j'ai pas eu la même impression sur Save the Green Planet et sur Bugonia. Je trouve que même si la fin est similaire, il y a moins un côté gênant dans Save the Green Planet et plus absurde. Alors que dans le remake, on peut plus se poser la question.
Parlons-en. Peut-être parce que Save the Green Planet, il y a dans sa forme un côté plus humoristique.
Oui.
Donc en fait, t'as vraiment ce truc absurde total où tu dis, ah d'accord, la blague, ils sont allés jusqu'au bout. Quoi.
Ouais.
C'est pas la même époque.
C'est pas
la même époque. Bah non,
je vois pas mon gros monsieur.
Il y a une grosse pression sur le film. Les Américains veulent faire un remake, moi je suis en pourparler avec l'Allemagne, tout va bien.
Good morning, Corey.
Good morning, Michelle.
I believe every company should strive to form a diverse table, to empower people of different skills and every time, what is it?
Skills and identities.
To foster a new generation of, okay, let's go again.
They want you to think it's you, that it's you who made this world. But it's always been them. All we've lost, all that's been done to us, we're starting that right again.
Bugonia version 2025, c'est quand même très 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 semblable. Je vais juste vous expliquer un peu les personnages et les petites différences. Donc ça se passe aux États-Unis. Il n'y a pas de date, mais on imagine que c'est actuel, enfin contemporain. Oui. C'est l'histoire de Teddy et de Don. Donc cette fois-ci, c'est deux Américains qui sont cousins. Teddy travaille dans une entreprise de
packaging, pharmaceutique.
Pour une grande firme pharmaceutique. Et son cousin, Don, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais on comprend qu'il est neurodivergent, comme on dit. D'ailleurs, l'acteur également l'est. Mm-hmm. Et ils vivent un petit peu à la marge. Ils ont aussi des abeilles avec des ruches dans leur jardin. Et en fait, on va très vite comprendre qu'ils vont kidnapper la CEO de l'entreprise dans laquelle Teddy travaille. Il s'appelle Michelle.
La PDGère.
La PDGère, qui est jouée par Emma Stone. Et donc, exactement comme dans la version coréenne, ils la kidnappent parce qu'ils sont persuadés que c'est l'empereresse des Andromédiens, donc des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre. Et ils vont donc la garder dans le sous-sol de leur maison pour la torturer, pour qu'elle avoue que c'est bien elle, quoi. Donc cette fois-ci, il y a beaucoup moins de body horror. Il y a quand même une scène où il va l'électrocuter, mais en fait, ça va plus être dans la négociation et aussi dans le paraître.
Parlotte aussi.
Parce qu'en fait... De quoi ?
Parlotte.
Oui, dans la bruit.
Oui.
Bah, dans la négociation, ils vont vraiment se donner un rôle de... On est les représentants des humains, ils vont mettre une sorte de costume, et tu sens que c'est le costume du père qui est décédé, qui est dans l'armoire depuis des années.
Tu sais qu'il y a un côté crade aussi dans celui-là.
Il y a aussi un côté crade, ouais. Bah, c'est deux mecs...
Redneck,
c'est vraiment les white trash américains.
Ouais.
C'est les trompistes. Hein,
c'est Matt Damon en salle, quoi.
C'est ça.
T'es dit, parce que cet acteur, quand même.
Ouais, c'est Jesse Pillmont. Mm. On comprend que Teddy, en fait, sa maman est à l'hôpital, comme dans la version coréenne, qu'elle est sous traitement. On comprend rapidement que c'est à cause des médicaments de l'entreprise, parce qu'on a des flashbacks.
Elle était addict et c'était une manière d'essayer de la sevrer, non ? J'ai compris ça, moi.
Peut-être.
J'ai oublié.
C'est peut-être du coup un peu une référence au fentanyl de la crise américaine.
Ouais.
Enfin, en tout cas, c'est très ancré dans le côté américain, white trash, très théorie du complot aussi.
Ouais.
Parce que Teddy, il passe son temps à dire à son cousin « Ah mais oui, mais il y a ce truc-là, je t'expliquerai. De toute façon, j'ai fait mes recherches en ligne. » Et on voit vraiment qu'il est dans un tunnel d'informations que lui-même nourrit, en fait. Cette fois-ci, comparé au film coréen, on voit pas l'enquête policière, on voit juste un flic. Très vite, on comprend que c'est une connaissance de Teddy. Et très vite, de façon pas du tout subtile, on comprend qu'en fait, il l'a touché quand il était plus jeune. Et c'est à peu près tous les personnages qu'on voit, c'est vachement plus en huis clos. Mm. Cette fois-ci, on va avoir donc Michelle, la CEO, qui va essayer un petit peu de... Comment dire? Elle est aussi tendue.
De le raisonner.
Ouais, elle va essayer de raisonner donc Don. Et Don, en fait, qui lui est un peu le cul entre deux chaises, il va un peu paniquer. Et il va même carrément se remettre en question, tout ça, jusqu'à tel point que il va décider d'utiliser l'arme qu'il avait contre lui-même. Justement, à ce moment-là, on se demande est-ce que c'est parce que elle a réussi à le... Comment dire ? À rentrer ses méchantes pensées d'extraterrestre dans sa tête. Il y a aussi notamment une scène de repas assez bien écrite et interprétée, où elle est accrochée carrément à sa chaise pendant qu'ils sont en train de faire semblant que tout se passe bien, alors que ça reste une prisonnière. Pour finir, elle va tout avouer également, comme dans la version coréenne, après avoir vu plein de documents dans une pièce cachée. Pareil, elle va dire vous en avez tué combien, il y en avait combien des vrais andromédiens. Et en fait, on va comprendre que Jesse, contrairement à ce qu'on pouvait croire, il va pas chercher ses informations sur Internet, et on comprend que c'est lui la source principale des informations sur les andromédiens. Et elle va tout lui avouer. Pareil, elle va l'envoyer tuer sa mère à l'hôpital, et elle va lui dire il faut que j'aille à mon bureau pour faire un code d'accès pour que les andromédiens viennent me chercher et tout ça. Donc il y a toute une scène comme ça. Lui pense la rouler en prenant des explosifs sur lui. Et en fait, jusqu'au dernier moment, elle le met dans un placard pour qu'il se fasse téléporter. Sauf qu'il y a un problème avec sa veste d'explosifs. Et du coup, en gros, il se fait sauter dans le placard avant quoi que ce soit. À ce moment-là, on dit c'est la fin. Et en fait, non.
Et en fait, non.
Et en fait, elle revient. Elle s'en va parce qu'elle est dans une ambulance. Elle revient pour être pile à l'heure pour, en fait, se faire téléporter par ses confrères dans le vaisseau spatial, parce qu'en fait c'était une extraterrestre depuis le début.
C'était l'impératrice.
C'est pas n'importe laquelle,
Et oui, l'impératrice.
D'ailleurs, elle résiste comme ça, qu'à un moment il la respecte un peu plus, parce qu'il se rend compte qu'elle résiste à des voltages très élevés, parce qu'elle est de sang royal.
Exactement. Et donc, comme dans la version coréenne, en fait, ils décident que les humains ne valent pas la peine, que de toute façon, en fait, ils avaient fait des tests sur la mère, mais vu qu'elle est décédée, il n'y a plus de sujet humain. Ils se rendent compte que ça vaut plus la peine, donc ils anéantissent.
C'est en train
vie.
De se passer maintenant, on est.
Alors visiblement, c'est toute vie humaine qu'ils anéantissent.
Non, oui, humaine.
Parce qu'on voit des animaux survivre, alors que tous
donc
les
là,
humains.
Donc là, on a tout un montage de scènes de la
beau,
vie qui s'arrête sur un coup sec.
Ouais, sur tout plein de lieux publics.
Je crois qu'il y a un chien qu'on voit qui est pas mort, peut-être un chat aussi, je sais plus. En tout cas, c'est les humains qui sont stoppés dans leurs actions quotidiennes. Il y a un couple qui est en train de faire l'amour, il y en a qui sont en train de bronzer à la plage. C'est un montage assez lourd,
assez
poignant.
Pour une fin comme ça.
Ouais.
Et voilà la fin.
Tout s'arrête pour la race humaine.
Do you remember what happened? How you got here? You must have walked. I heard déjà vu outside, opened my door and there you were.
C'est un film assez esthétique.
Oui, c'est très beau.
C'est très beau.
En général, du coup, ce réalisateur-là, il fait des trucs assez esthétiques,
ouais.
Très léchés comme plan.
Ouais.
Oui, ça a été tourné en VistaVision. Alors,
mais qu'est-ce que c'est, Maxime, VistaVision ?
Bah, je le sais, je suis pas allé voir sur Internet juste avant.
Bah non.
Et en fait, c'est une façon d'utiliser une pellicule de 35 cm, mais plutôt
millimètres.
Que millimètres, pardon, ça serait gigantesque. 35 cm, imagine la taille de la caméra. Mais en gros, plutôt que de faire défiler la pellicule à la verticale, et la même pellicule est utilisée à l'horizontale, ce qui fait que c'est plus large que haut. Donc voilà, c'est un procédé très technique, mais ce qui donne plus de qualité à l'image. Si vous êtes allé au cinéma en 2025, c'est une technique qui a été utilisée pour le film The Brutalist et également Une bataille après l'autre.
Ouais, parfois les choses sont beaucoup suggérées, contrairement à l'original où on voit la torture, on voit tout. Là, il y a des scènes où la caméra se détourne de l'objet pour voir un peu soit les réactions, soit bon, t'as juste un plan de la maison et t'entends... les bruits ou les discussions. Il y a des plans assez longs aussi quand ils essaient de la kidnapper. C'est... Moi, j'ai adoré, mais c'est super long parce qu'elle arrive à leur résister. Mmh. Donc, ça court très dans le jardin, elle le kick. Après, elle se rebarre. Donc, c'est marrant, c'est pas juste bon, on la kidnappe et c'est parti. Ils sont un peu ridiculisés aussi.
C'est ça qui crée aussi le comique.
Voilà. C'est un peu...
Parce qu'en plus, on la voit s'entraîner avant, au tout début du film.
Oui.
Alors que
c'est pas une petite nature.
Elle est résistante, quoi.
Il y a un montage parallèle où elle, vu qu'elle est riche, elle est multimillionnaire, en fait, tu vois qu'elle a un coach perso où, genre, tous les matins, elle fait des exercices de boxe et tout. Et eux, ils font trois pauvres pompes dans leur maison.
Et puis, là, on voit vraiment faire les pompes.
Oui, puis on les voit aussi, genre, elle, tu vois que c'est sa morning routine, quoi.
Ouais,
elle fait du yoga aussi, mais tu vois que c'est, genre, hyper maîtrisé. Et eux, ils essaient de faire du yoga, ils ont même pas de tapis, ils glissent et tout,
ouais,
il y a aucune souplesse, c'est très drôle.
J'ai bien aimé ce côté plus montré sans montrer, et c'était moins agressif quoi, que l'original.
Subtil, oui.
Après, en fait, la violence, elle vient aussi de comment, par exemple, comment le son est traité aussi.
Ah, oui.
Enfin, elle se fait aussi électrocuter.
Oui, quand même.
C'est de plus en plus intense parce que le son est de plus en plus fort, plus en plus long.
On peut quand même ressentir un malaise face à la manière dont elle est traitée, mais il y a un côté un tout petit peu plus. Enfin, il peut péter un câble à tout moment, Jessie, mais ou Teddy, non, je sais plus.
C'était dit, mais l'acteur s'appelle Jesse,
c'est ça.
L'acteur peut péter un câble aussi à tout moment.
Tu le vois dans n'importe quel film, tu dis oui, il faut pas le faire.
Mais parfois, il a un côté un peu plus civilisé. Enfin, tu sens qu'il n'a pas encore totalement vrillé, je trouve. Moi, j'ai l'impression qu'il...
Il y a des moments où il pète des câbles.
Oui, quand, sur la table, quand il lui saute dessus.
Ouais, c'est ça, où tu te dis, ça peut...
Ça tenait à pas grand-chose, mais ça tenait un peu quand même. Mmh. Ça sentait.
Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé par rapport au côté complotiste. C'est que lui, il est convaincu que c'est une extraterrestre. Et elle, à un moment, elle essaye de dire « Bon, je vais lui dire ce qu'il veut entendre. » Donc elle dit « Oui, c'est vrai, je suis une extraterrestre. » Et puis il fait « Non, non, non. » Et elle dit « Mais c'est ce que tu veux entendre. » Et en fait, il y a vraiment ce truc de « Est-ce que tu veux savoir la vérité ?» Mais quand on dit ce que tu veux, en fait, tu ne l'entends pas. Et en gros, pendant tout le film, on se dit « Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment ?»
C'est un pervers narcissique. Voilà.
Oui,
les mots sont lâchés.
Mais alors, enfin, je sais pas, est-ce que ça m'a fait pareil avec la ration coréenne, mais est-ce que vous étiez plutôt du côté des deux rednecks ou plutôt de son côté à elle ?
Plutôt à elle, en vrai.
Bah ouais, moi aussi. Mmh. Alors que pourtant, en fait, je trouve qu'ils auraient peut-être dû plus la définir comme une pourriture, elle. Mmh. Parce qu'on le découvre un peu sur le tard.
Ouais.
Bah, elle est froide, mais c'est vrai qu'elle s'exprime bien, elle arrive bien à nous en... En fait, elle nous embobine comme elle a pu embobiner tout
c'est
le monde.
Ça.
Oui,
de faire bonne figure.
Je pense que ça correspond au personnage, mais il a aussi choisi Emma Stone, qui est hyper magnétique, en fait.
Ouais.
Enfin,
elle
a des attitudes un peu étranges, mais...
Mais elle maîtrise tous les codes, tu vois. Enfin, c'est comme le PDG, qui a la bonne voiture, qui arrive au boulot, qui est efficace, qui a sa routine. Enfin, tout est... sous contrôle, tout est maîtrisé, donc tu peux pas trop lui trouver une faille à part le côté un peu inhumain.
Mais justement, on le voit parce qu'au tout début, avant de se faire kidnapper, elle fait une sorte d'interview, enfin en tout cas une vidéo pour la boîte, et tu sens qu'elle a plusieurs visages, qu'elle peut avoir le visage public, et en fait à côté elle est un peu plus sévère, donc elle peut jouer avec les mots, ce qu'elle essaye de se faire. Et d'ailleurs, même eux, ils disent « Ouais, on a pensé à tout, on s'est même stérilisé chimiquement et tout. » Et tu dis « Ouais, c'est vraiment des fous furieux, quoi. »
Mais en fait, lui, il est affreux comme personnage, Teddy, parce que en fait, il est à fois dans la manipulation aussi de son cousin.
Ah bah,
totalement. Je sais pas, son cousin, il a l'air d'avoir une sorte d'attachement à lui parce qu'il est seul en fait sans lui quoi. Et ouais, je trouve que c'est affreux, genre il le force en fait à se stériliser tout en en fait tout en le lassénant de paroles infinies. En fait, c'est genre tu sais même plus ce qu'il est en train de raconter tellement c'est absurde quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est que justement il joue sur différentes théories du complot. Parce que par exemple, quand ils sont dans le vaisseau, il y a une espèce de reproduction miniature de la Terre, mais qui est version Terre plate.
Ouais.
Avec toute la bordure en glacier ou je sais pas quoi. T'as ça, t'as tout le délire, théorie des anciens astronautes, où c'est extraterrestres qui ont créé les humains, etc., qui ont exterminé les dinosaures et tout. Donc ouais, ça reprend vraiment plusieurs thèmes qu'on peut retrouver chez les sphères complotistes sur Internet et tout.
Bah, ce qui est aussi très drôle et assumé dans les deux films, c'est que à la fin, on se rend compte que vraiment tout ce qu'il a dit était vrai.
Oui.
Il n'y a pas juste un truc qui est vrai. C'est
ce qui est totalement
tout.
Exagéré.
Mais même elle, quand elle arrive dans son bureau pour se faire téléporter, elle prend sa calculatrice et c'est censé être un code à 36 chiffres, je ne sais plus. Et tu dis, ah, ça va trop loin. Et en fait, c'était vraiment le vrai truc, quoi. À chaque fois, tu te dis.
Parce que oui, jusqu'au bout, tu te dis, non, elle se fout de sa gueule. Et en fait, non.
Oui, en plus, tu sens vraiment que, vu que ça a l'air de fonctionner, et surtout que juste avant, elle arrive à le convaincre de donner du poison à sa mère. C'est quoi, c'est du liquide de refroidissement de bagnage, je crois.
Très connu,
en fait,
ça.
Putain, faut vraiment être con, quoi.
Oui, il est vraiment idiot, quoi.
Bah ouais, en fait, il la croit. Mais je pense que c'est peut-être à partir de ce moment-là où elle, elle est.
Ouais, elle dit que c'est pas le contenant.
Voilà, elle prend le
dessus. Elle dit que c'est pas ça dedans.
C'est pas ça dedans.
Ouais.
Et il apparaît vraiment comme une espèce de figure d'incel. Enfant torturé un peu, je sais pas.
Mais moi, ce qui m'a dérangé dans celui-là, et ça m'avait fait la même chose sur le film Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan, c'est que je me dis, mais le message du film, en fait, c'est les complotistes qui ont raison.
Ça me gêne aussi.
Moi aussi, j'ai vu Bugonia en premier.
Ouais.
Mais en fait, ouais, à la fin du film, c'est tellement concret que tu t'attends pas à ça, parce que t'as l'impression qu'elle l'embobine jusqu'à la fin, genre toute cette scène où, avec le truc de la cabine de téléportation qui est dans son bureau et tout ça, t'es là, elle va bien l'avoir comme ça et tout, jusqu'au bout, moi, ça m'a... j'y ai cru, quoi. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'était juste ce qu'il disait depuis le début. Ouais. Et ouais, en fait, tu ressors de là, t'es là, ah, c'est marrant quand même. Et après, t'es là, mais c'est quoi le message ?
C'est exactement ça, je suis pas tout seul. Parce qu'en fait, moi, j'étais là en me disant, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que, comment expliquer ? C'est un peu trop dans le vrai. Parce que soit le personnage, on imagine vraiment des mecs qui passent leur temps à mettre des messages sur les forums complètement fous. Mais du coup, en faisant ça, entre guillemets, ça leur donne raison, même si ça s'est moqué de lui pendant tout le film. C'est vraiment trop entre les deux pour que... C'est vraiment genre... mais non.
Et ça faisait pas trop ça dans la version coréenne.
Parce que c'était absurde.
Ouais, et parce que aussi, c'est en Corée en 2003. Alors que là, les États-Unis de 2025, c'est un...
Ouais. C'est un vrai
c'est un
sujet,
peu trop
quoi.
Tendu pour... Enfin, je sais pas.
Ouais.
Bah, oui, moi,
c'est marrant de choisir cette approche, enfin cet angle-là, quoi.
Ouais.
En tant que réalisateur.
Bah, moi, t'as dit, il lui manquait plus qu'une casquette rouge MAGA, et enfin, c'est un vrai mec que tu pourrais voir dans un reportage.
Ouais. Je sais pas si vous aviez vu le film Civil War il y a 2 ans. Bah, il a un petit rôle dedans, et ça parle d'une guerre civile aux États-Unis, sans que ce soit précisé vraiment les tenants et les aboutissants, mais lui, vraiment, c'est. C'est le gars qui se prépare à ça, qui a ses flingues, qui est hyper menaçant avec tout le monde.
Le survivaliste.
Ouais.
Ouais.
Mais il est très... J'aime beaucoup cet acteur. Moi, je le connais depuis pas mal de temps parce que je l'avais découvert dans la série Friday Night Lights.
Je l'avais découvert dans Seul sur Mars. et dans Jason Bourne.
Pas dans l'épisode de Black Mirror aussi.
Ah oui, si. Il est dans Black Mirror.
Oui, il séquestre des gens dans un jeu vidéo.
Mais du coup, c'est comme... il a le syndrome William Defoe, quoi. C'est qu'en fait, dès qu'il est dans un film, tu dis « Oh là, lui, faut pas rigoler avec lui ».
Moi, je l'avais découvert dans « Je veux juste en finir ».
Ah, je l'ai pas vu, je sais qu'il est
bien. Ça a l'air positif aussi.
Ah non, mais c'est terrible comme film, c'est hyper long, hyper absurde. Il est très bien. Et en fait, c'est une histoire, c'est un couple qui va passer Noël chez la belle famille.
C'est terrible.
Voilà, pas besoin d'en dire plus.
Tout est chelou, ça commence par le trajet en voiture où vraiment c'est le silence pendant 30 minutes.
Ouais. C'est pas non plus Get Out, quoi. C'est...
Non, non, puis, mais par contre, chez les beaux-parents, bah, quand ils arrivent, les parents sont chelous. Un moment, un qui passe dans une autre pièce, quand ils y vont, il a pris 20 ans d'un coup. Enfin, c'est un truc vraiment surréaliste. Et avec, du coup, Jesse Pimont, qui est aussi un peu étrange et flippant dedans, quoi.
D'accord.
Et j'ai vu que Begonia était produit par Ari Aster, qui a réalisé Midsommar, Hérédité, tout ça. Donc, bon, c'est un peu l'idée quand même de se... Enfin, je sais pas, de se faire coincer. Dans... Ouais.
Alors, j'aimerais pas du tout arriver dans une soirée où t'as Ari Aster et Yorgos Lanthimos qui sont en train de discuter. T'imagines dans une sorte de cave un peu jolie.
Ah bah, ouais, c'est clair. Genre... C'est une soirée underground. Tu connais pas le lieu avant de, avant une heure avant, tu vois. Il y a Jordan Peele qui est dans le coin aussi.
Jordan Peele, je pense qu'il est un peu moins torturé que les deux avant. Il doit être plus drôle. Enfin, bah déjà, il a joué dans un duo où il fait des têtes pas possibles.
Sinon, les deux points vraiment positifs de ce remake. Déjà, il y a la musique. Il y a un thème qui revient régulièrement. Ça fait un truc très solennel en même
Attends,
temps.
Faut pas que tu chantes, on va se faire striker par ce côté.
Bon, j'allais faire la trompette, mais je vais.
Il fait juste du vélo et t'as une musique tonitruante, presque d'orchestre.
C'est un peu désagréable.
Oui, c'est dissonant.
Ouais. Et il y a ça et les acteurs. Ah, Emma Stone et Jesse Plemons qui jouent super bien.
Ouais. Et sur la musique, c'est un peu le style de Yorgos Lanthimos où je trouve que dans les autres films, on retrouve ça aussi.
Ouais, donner un côté grandiose à une scène qui est.
C'est une sorte de virgule aussi un peu des fois. À la fin de cette, t'entends juste.
Mais pour le coup, c'est là, c'est normal. Sur celui-là, ça marche bien parce que du coup, t'as le côté un peu. T'as l'impression que c'est les extraterrestres qui arrivent ou je sais pas, il y a un.
Bah, que tout s'écroule quoi, que c'est en train de partir. En...
Comme s'il y avait des interférences un peu. Et alors que bon, dans d'autres films, c'est un peu moins. Enfin, par exemple, sur la mise à mort du cerf sacré, moi j'ai pas trop aimé ce film-là, mais j'ai l'impression que c'était une parodie de film d'auteur, vraiment. Mmh. Et du coup, il y a ce truc de musique qui arrive comme ça, et tu te dis, bon, ok, il a juste voulu rajouter de la bizarrerie, quoi. Alors que dans Begonia, je trouve que ça a du sens.
Mmh. Moi j'ai envie de le revoir. Enfin, il y a des films comme ça, pourtant je l'ai vu il y a pas longtemps. Enfin, je trouve que déjà le principe, ça c'est lié à l'original. Juste le pitch, quoi, est trop bien, quoi.
Je serais plus sur quelques films feel good un petit peu, mais ok. Ouais. Allô maman, ici c'est Noël.
Allô maman bébé.
Allô maman bébé. Can not happen.
So, I guess it's déjà vu all over again. Oui, il y a le titre du film aussi. Moi, je me suis posé la question.
C'est
vous
dans
avez
mon,
regardé
dans mon quiz.
Ah, c'est dans. Ah, d'accord. Ah. J'ai rien dit. Ah,
enfin, mon quiz. C'est un quiz. Vraiment un medley de choses. Non, mais random.
Il y a des questions sur la crème hydratante ou pas?
Même pas.
Attends, du coup, il y a un quiz là?
Bah, je sais pas. Je propose, sauf si vous avez.
Oui, quelque chose. Il faut un jingle quiz par contre.
C'est le quiz de Begonia.
Quiz time. Ma première question porte sur l'électricité, qui est un peu l'autre acteur phare de ce film. Est-ce que vous pouvez me dire qui est l'inventeur de l'ampoule électrique?
Je crois savoir.
Oui.
Nikola Tesla?
Non.
Ah, oh non,
Edison.
Ah, Edison, oh oui.
Oui, très bien. Oui. Thomas Edison, 1847-1931. Okay. Voilà.
J'ai copié sur toi, Nathan.
On passe à un autre thème central. Pouvez-vous me citer des acteurs ou actrices qui se sont rasés la tête pour leur film?
Moi, j'en ai un, moi.
Vas-y.
Nathalie Portman.
Ah, j'allais dire elle.
Dans
V pour Vendetta.
Très bien, très bien.
Karen Gillian dans Gardien de la Galaxie ou Avengers.
Britney Spears.
Personne lui a demandé, mais elle l'a fait quand même. Exactement, voilà, c'était juste pour la...
Dans Leave Britney Alone.
Pas Vincent Lagaffe dans...
dans le
bâton.
Mais non, mais on oublie aussi...
Demi Moore.
Ah bah oui, Demi Moore dans J.A. Jane.
Ouais.
Beaucoup de femmes en fait.
Bah, c'est ça, c'est pas genré, mais malheureusement.
C'est plus marquant.
Bah oui.
Parce que Vin Diesel, il a dû passer pas beaucoup de cheveux à raser, mais parce que.
Personne ne l'a dit. Vous avez remarqué ma nouvelle coupe ou quoi?
C'est vrai que dans Save the Green Planet, il rase les cheveux du PDG, Mais on s'en fout parce qu'il avait pas déjà les cheveux très longs.
Ouais, côté,
ouais, c'est plus marquant le fait que si on lui coupe les cheveux, elle peut plus communiquer.
Et elle s'est vraiment rasée, je pense, pour le.
Et petite trivia, apparemment, du coup, Emma Stone, juste avant de tourner la scène, elle a rasé les cheveux de Yorgos Lanthimos aussi.
Ah ouais, pour qu'il la soutienne dans cette.
C'est comme les vidéos sur Insta des gens qui ont le cancer et leurs compagnons, ils se rasent aussi les cheveux. Ouais. Et tu dis oui, mais t'as pas le cancer et puis t'as déjà les cheveux.
Non, mais au moins, ça fait un style, quoi.
Oui.
Troisième question. La galaxie d'Andromède est à combien d'années-lumière du Soleil? J'ai 4 propositions.
Okay. Il nous faut un ordre de grandeur.
Bah, 1,5 million d'années-lumière, 2,5 millions d'années-lumière, 3,5 ou 4,5?
3,5.
Tout le monde travaille.
4,5.
2,5.
Eh bien oui.
Bravo. Je le savais.
On sent la culture. Autre question, rien à voir. Combien d'espèces d'abeilles sont répertoriées sur la planète? 1000, 2000, 20 000 ou 40 000?
D'espèces?
2000.
40 000.
2000.
Alors, 2000, c'est uniquement en Europe.
Waouh!
Donc, il y a plus de 20 000 espèces d'abeilles sur la planète.
Ok.
Dans la scène où Emma Stone tente de noter son code sur la calculatrice, est-ce que vous aussi, vous avez pensé qu'elle était en train d'essayer d'écrire quelque chose?
Elle baise.
Bonne réponse.
C'est ça la question. Quel est le calcul? C'est ça la question.
Oh, purée. Okay.
Je sais plus. 1, 8, 9, non, je sais plus.
Attends, parce que du coup, c'est à l'envers. Coup,
les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre cette question.
C'est à l'envers, c'est...
Je pense que je peux le faire avec la mémoire musculaire.
Attends, ça fait
5. Calculatrice.
Ça fait 5 parce que c'est.
Allez, Nathan, mémoire du corps, il va retrouver.
Ça fait 3.
Oh.
Non, tu l'as fait.
Attends.
Attends. L.
Ah non, ça marche pas.
Le A, c'est quoi? Bon,
merde.
C'est
bon, il manque une lettre.
Ah non, le A. Enfin, en tout cas, moi j'ai cru qu'elle allait montrer aux gens à l'extérieur un message codé, tu sais, à l'envers, mais non, c'est pas ça. Ensuite, est-ce que vous pouvez me citer les tortures du Moyen-Âge? La roue.
Ouais, l'écartèlement.
Ouais.
Est-ce qu'il y a ce truc avec la souris comme dans Too Fast, Too Furious? Il met une souris sous un verre et puis il fait chauffer sur le nombril.
Oh, oui, elle
pour que ça rentre dans le nombril, ouais.
Ah non, oui, mais c'est ça.
D'ailleurs, la chanson Jean Petit qui danse, c'est en lien avec le sacrifice de la roue.
C'est Gartel ou pas?
Oui.
Ouais, c'est ça. C'est sympa. Alors, il y a des noms que je ne connais pas, la mitre, les strapades, la potence, ça doit être la pendaison.
Le truc du pirate, non? Je sais pas.
Ablation des membres, aveuglement, castration.
Ouais.
Voilà.
Et il y en avait qui avaient
le bûcher.
Tout
le
bûcher. Les bouillantements. Les bouillantements.
Il n'y avait pas aussi le truc où tu brûles juste une partie du corps, genre ils faisaient ça pour détecter si les femmes étaient des sorcières.
Probablement.
Tu brûles des taches de naissance ou des trucs.
C'est horrible.
L'enfouissement.
Du coup, tu crèves de douleur, quoi. Enfin,
d'arrêt cardiaque, je pense.
C'est une sorcière.
Ou alors tu crèves pas, mais t'as mal, quoi.
C'est ça. C'était le petit moment de torture. Et pour vous, quelle est la pire forme de torture à voir au cinéma? Qu'est-ce qui vous met le...
Au cinéma?
Ouais, non, je veux dire, qu'est-ce qui vous met le plus mal à l'aise? Je pense que les doigts dans les yeux, un truc comme ça, tu vois.
Un discours de Jordan Bardella, c'est compliqué.
Moi, le truc avec les ongles.
Avec les ongles?
Ouais.
Et pourtant, ça, il y en a des films.
Mais moi, j'aime pas les ongles.
Un truc avec le feu.
Même dans la ville.
Feu ou démembrement, tout ça...
Ça me semble pas mal.
Je pense se retrouver dans une pièce close avec du Carlos en boucle ou un truc. Ou du Sardou, tu vois. Tu peux pas baisser le son.
C'est ça.
Et genre le pétrole.
Et qu'est-ce qu'on avait vu dans. C'était quoi le film avec Gaston Bide
Déjà, lequel? C'était une torture en soi.
Juste Franck Gastambide.
La pire torture, c'est Franck Gastambide.
Combien de pourcents des Français pensent que la Terre est plate?
Oh, je crois que c'est beaucoup. Je crois que c'est 10%.
Ah?
J'allais dire 15.
Non, c'est 9, je crois.
C'est 9.
9%. Et j'en fais partie.
Une personne sur 10, vous en connaissez forcément. Et ensuite, j'espère que vous avez fait des recherches, parce que j'aurais jamais trouvé. Le nom du film, donc Bugonia, ça vient de quoi au final?
Ouais, j'avais vu, moi.
Ah, vas-y.
Ouais, moi je sais.
Oui.
Ça veut dire progéniture de bœuf ou ouais, de bovin ou un truc comme ça. Et c'est un rituel antique. Mm-hmm. C'est en gros des abeilles qui naîtraient du corps d'un bœuf, enfin des entrailles du bœuf.
Exactement. Même en le disant, j'ai toujours pas trop compris. Déjà. Voilà, les abeilles peuvent. L'idée que les abeilles peuvent naître du cadavre d'un bovin. Mm. Donc on retrouve l'idée du cadavre.
Alors que c'est des mouches, quoi. C'est des grosses mouches autour de.
En fait le titre je comprenais pas pourquoi ça s'appelait comme ça puisqu'en fait je me disais ça ne veut pas dire grand chose, je pense qu'on va comprendre dans le film, mais non.
Moi au début je pensais que c'était le nom d'une fleur, genre comme magnolia.
Oui.
Et en fait pas du tout.
Bougonia forever.
Ça veut dire qu'on doit tous mourir pour renaître. Les c'est un truc de sectaire. Quoi? Voilà, c'est la fin de mon quiz.
Moi j'ai une petite question pour
Merci.
Vous.
Merci.
Je voulais savoir, c'est quoi votre théorie du complot préférée?
Alors, celle à laquelle je crois ou celle que je préfère?
Tu peux avoir les deux.
Non.